Thévenet. Il va nous apporter la parole de Dieu. Daniel Thévenet, il est pasteur senior de l'église de Réveil à Lyon, Villeurbanne plus précisément, mais bon, c'est à côté de Lyon pour ceux qui ne connaissent pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a une grande expérience dans le ministère, qui a dans l'enseignement aussi, et qui est aussi le président de l'Union des églises évangéliques de Réveil en France. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette union, c'est l'union à laquelle appartient notamment l'église Kérigma, qui se réunit le dimanche après-midi dans nos locaux. Et je crois qu'il sera aussi de service cet après-midi avec Kérigma. Ben, merci beaucoup, Daniel, en tout cas, d'avoir accepté de venir nous apporter la parole ce matin. Voilà, je te laisse la place, on va juste prier pour toi et pour nous maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole qui est toujours d'actualité, ces écritures que tu as inspirées par ton Saint-Esprit. C'est une parole vivante, Seigneur, une parole qui est pour nous aujourd'hui. Et je te prie et je te demande de bénir encore Daniel Thévenet, de le renouveler maintenant par ton Saint-Esprit pour qu'il puisse nous transmettre ce que tu as mis sur son cœur et le transmettre ces écritures avec fidélité. Dispose nos cœurs, Seigneur, à écouter ce que tu veux nous donner d'écouter et à mettre en pratique, Seigneur, surtout ta parole qui est vérité. Nous prions au nom de Jésus. Amen.
Bonjour. Merci à votre pasteur de me faire confiance et de me donner l'occasion de parler un peu avec vous. Je vous apporte les salutations de nos églises en France. Et puis, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'ai été au bout du monde. Donc, ils m'ont chargé de vous saluer. Ce sont les églises du Vanuatu. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, mais si vous faites un trou, là, c'est juste... vous faites un trou, c'est juste... au bout de la planète, et c'est un privilège, j'ai mesuré là, le privilège de pouvoir vivre les prophéties que donne l'Écriture, la Bible, sur les îles, la joie qui leur est promise. Et je suis émerveillé de voir que le Seigneur travaille dans partout. Il est à l'œuvre par son esprit, même dans toutes les églises. Tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ, et du Dieu trinitaire, je suis témoin de l'action du Seigneur un peu dans le monde entier. Et il agit aussi à Paris hein, et à Boulogne. La salutation aussi de mon épouse. Je ne sais pas sur quel verset le Seigneur travaille votre cœur en ce moment. Je ne sais pas si vos regards sont portés vers un texte. Mais moi, ça fait à peu près 2 ans. Que le Seigneur régulièrement me fait travailler Jean 17. Jean 17, je pense que tous les chrétiens savent ce dont il s'agit. Et j'aimerais vous partager avec vous la troisième partie de cette prière de Jésus. Et donc, je pense que ça va s'afficher. C'est à partir du verset 20, si je ne m'abuse pas. Oui, 20. Voilà. Et on va essayer de... comment dirais-je, de le lire avec une attention particulière. Permettez-moi de quelques paroles avant qu'on lise ce texte. Je ne sais pas si vous avez réfléchi un petit peu au moment où nous verrons Jésus comme il nous voit, comme il nous connaît. Est-ce que vous avez préparé un petit speech? Est-ce que vous avez préparé un peu votre... qu'est-ce que vous allez lui dire? Ou qu'est-ce que vous allez faire? En général, quand je pose cette question, les hommes, ils préparent un petit texte, et puis les femmes disent, non, moi, je vais me coucher à ses pieds et l'embrasser. En tous les cas, il y a des disciples à qui, des personnes dans l'évangile que je vais un peu sermonner, notamment les deux disciples d'Emmaüs, qui ont entendu de la part de Jésus le plus incroyable plus grande exégèse et herméneutique de tout ce qui concerne Jésus dans l'Ancien Testament, ils n'ont rien écrit. Donc eux, ils auront droit un peu à mes reproches. Par contre, Jean le plus jeune des disciples, lui, je vais le remercier. Je pense que ce petit, on pense certainement qu'il était proche de l'adolescence encore, en tous les cas, curieux. Et je l'imagine, alors que Jésus est en train de se préparer pour la croix à Gethsémané, vous vous souvenez qu'il a reproché à ses disciples de ne même pas pouvoir rester 1 heure en prière avec lui, c'est-à-dire qu'au moment où Jésus avait vraiment besoin, Jésus homme, de la présence et de l'accompagnement de ses disciples, ils ont tous dormi. Mais je soupçonne qu'il y en avait un là qui s'est faufilé dans le jardin de Gethsémané et qui a été un peu écouté ce que Jésus pouvait dire à son père. Et moi, Jean, là, je vais le remercier parce que il n'y avait pas à l'époque de dictaphone ni de smartphone pour enregistrer, mais en tous les cas, il a sérieusement écouté ce que Jésus disait à son père dans ce moment intense d'intimité. Et longtemps après, le Saint-Esprit l'a aidé à se remémorer comme Jésus l'avait promis, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné, ce que je vous ai dit. Alors c'est vrai qu'on ne connaît pas trop la date exacte de la rédaction de l'Apocalypse et de l'Évangile, mais en tout cas si on prend Jean comme auteur des deux, il est probable que l'Évangile de Jean ait été écrit simultanément ou peut-être après la révélation de l'Apocalypse. Et nul doute que on est entre 90 et 100 après Jésus-Christ. Nul doute que, et moi c'est mon impression personnelle, qu'il a rédigé l'évangile de Jean avec cet arrière-plan de la vision qu'il aurait peut-être déjà reçue dans Apocalypse chapitre 1 et 2. En tous les cas, de la royauté, de la majesté de Jésus. Il a connu Jésus homme, il a connu adolescent. Et là, il l'a vu dans toute sa gloire. Et j'aimerais qu'on puisse lire cette troisième partie de cette prière magnifique en se mettant dans la peau de Jean, dans cette curiosité saine de se mettre là, s'introduire un peu dans cette intimité précieuse qui existait entre Dieu le Père et Jésus. Alors, vous le savez, ce chapitre 17 se divise en trois parties. Jésus en premier prie pour lui. Il prie par rapport à sa mission. Et dans la deuxième partie, il prie pour ses proches, les disciples. Et là, dans cette troisième partie, il prie pour tous ceux qui vont croire à leur témoignage. Verset 20, ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu. Mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, et que je sois moi-même en eux. Je suis constamment en ce moment dans l'émerveillement de ces paroles. Il y a trois mots que je vais retenir et on va essayer d'y voir un peu plus clair dans trois mots clés qui reviennent presque constamment dans cette prière, dans ce testament. Jésus va vers la croix, il est à Gethsémané, et ce qu'il dit est très important. Le premier mot qui est là, c'est le mot éternité. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et nous avons du mal, nous, avec ce mot. Je ne sais pas si vous avez du mal. En tous les cas, je ne vais pas vous donner l'explication entière parce qu'elle va nous échapper. Cette notion d'éternité est quelque chose... on ne peut pas, en étant humain, créature, on a un début, une fin, on aura toujours du mal sur cette terre à appréhender. Mais on peut quand même essayer d'y voir un peu plus clair pour comprendre un peu mieux cette notion de l'éternité. Le deuxième mot qui est important, c'est ce mot unité. Cette unité qui commence par nous-mêmes. Comment on peut être un ensemble si notre cœur est fragmenté, si notre vie n'est pas réunifiée par le Seigneur, par sa grâce? Il est question de l'unité aussi. Et de la qualité d'unité, moi je suis émerveillé de voir que pour Jésus, il ne veut rien de moins que nous entraîner dans l'unité qui existe au sein de la Trinité. Je veux dire, on est des créatures et pourtant il n'a de cesse de dire « Père, je veux qu'ils comprennent que tu les aimes comme tu m'aimes ». Dans cette unité qui est remplie d'amour, l'amour que Jésus veut que nous ressentions aujourd'hui, et de la même nature dont il s'est nourri en tant qu'être humain, en tant totalement Dieu mais totalement homme, et il sait qu'on en a besoin, de cet amour total et entier, de cette qualité d'unité. Et le troisième mot qui revient et qui me touche, qui me bouleverse, c'est le mot « gloire ». Un mot qui aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, est employé un peu, à mon avis, à tort et à travers. Donc, est-ce que vous êtes prêts à me suivre un petit peu? Et puis, vous avez le droit de questionner. Hein, je ne prétends pas saisir tout, mais je veux vous faire partager ma réflexion et ma méditation personnelle. L'éternité. C'est un de nos humoristes qui disait que l'éternité s'élance surtout vers la fin. Et puis, saint Augustin, il a parlé pas mal aussi de l'éternité et il a donné une image. Saint Augustin était un Africain du Nord, il vivait au bord de la mer Méditerranée, et il raconte comment, par exemple, il avait interrogé un enfant qui jouait sur la plage à faire ce que beaucoup d'enfants faisaient, mais celui-là, il creusait un trou dans le sable, il allait chercher de l'eau dans la mer pour remplir le trou. Et Augustin lui a dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et le gamin lui dit, mais je suis en train de transvaser l'eau de la mer dans mon trou. Et Augustin a eu cette remarque, c'est un peu comme nous. Hein. Comment on peut être rempli de Dieu? Comment notre vase, comment notre cœur peut remplir Dieu dans son immensité? Mais alors, comme il était souvent, je crois qu'il était comme moi, il aimait beaucoup la plage et la mer, et ce qu'il y a. En tous les cas, il a dit, voilà, l'éternité, c'est le temps qu'il faudrait à un petit moineau qui prendrait un grain de sable dans son bec, irait le transporter sur la Lune, il revient en prendre un autre, et il ferait ça avec le sable de toute la planète. Je crois qu'il serait en train encore de faire ce transport. Et il disait, c'est juste le début de l'éternité. On a du mal, parce qu'on est, on est des créatures, on a un commencement et une fin. Alors l'éternité, et c'est Augustin qui en a parlé aussi, il a bien compris que l'éternité fait partie de la création, enfin le temps fait partie de la création. Le temps existe parce que Dieu a créé des étoiles, on ne sait pas combien de millions ou milliards d'années, J'y étais pas, donc je ne peux pas vous le dire. En tous les cas, le temps est une créature. C'est Dieu qui a créé le temps. Donc le temps est quelque chose qui nous, comment dire, qui va bien avec nous parce que le temps se mesure, nos jours sont comptés. Alors, c'est vrai que la notion de temps peut changer suivant les peuples, hein. Moi, je me souviens au Tchad, au sud du Tchad, j'avais des personnes âgées qui disaient j'ai 120 ans, j'ai 150 ans. En fait, ils comptaient les années par saison. Comme il y a deux saisons, la saison sèche et la saison pluie, donc il fallait diviser par deux. Donc, la notion du temps est là. Et puis, Jésus parle de cette éternité qui nous échappe. Dieu est hors du temps. Et pourtant, il remplit le temps. Voilà, mais il n'a ni commencement ni fin. Quand Jésus se présente à Jean dans l'Apocalypse, chapitre 1, je suis l'alpha et l'oméga, première lettre et la dernière lettre de l'alphabet, ça peut vouloir dire que plus on remonte dans le temps, plus loin que les dinosaures, plus loin que la création du système solaire. Là, on commençait déjà à fumer un petit peu dans la tête. Eh bien, plus loin on remonte dans le temps, plus on va rencontrer Jésus. Et si on se projette dans l'avenir, plus loin on va dans l'avenir, ben on trouvera Jésus qui est là, qui nous attend. Il est le début et la fin, le commencement et la fin. Dieu est hors du temps. Cette réalité fait que Dieu habite autant le passé que le présent et que l'avenir. Est-ce que vous me suivez toujours? Oui ou non? Bon, vous me le dites, hein? Donc ça veut dire que Dieu remplit le passé, remplit le présent et présent, remplit l'avenir. Et pour nous, ça, c'est pas possible. Et quand il se présente dans l'Apocalypse, Jean, du chapitre 1, Jésus dit, voilà, je suis celui qui était, qui est et qui viendra. Il change un petit peu par rapport à la façon dont il s'est révélé à Moïse, par ce verbe, parce que Dieu n'a pas de nom. Hein. Et ce que nous prononçons Yahweh, c'est un verbe, je suis. Alors, en hébreu, c'est le contexte qui va définir le temps. Et ça veut dire que si on va dans le passé, Dieu est dans le passé. Alors ça, pour nous, le passé, c'est passé. Non, il est là. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dans le présent, on n'a pas de problème pour remarquer que Dieu habite le présent, mais il habite aussi l'avenir. Alors voilà que nous sommes des créatures et nous avons ce problème. Si Dieu est hors du temps, il a tout son temps. Je me souviens d'une grand-mère qui me disait avec beaucoup, j'espère que vous avez de l'humour, qui me disait, avec Dieu, c'est difficile parce qu'il n'en fait qu'à sa tête. En fait, c'était sa façon de dire, voilà, mais oui, bien sûr, parce qu'il est Dieu. Alors, quand Jésus prie cette prière, et qu'il prie le premier verset qu'on a lu, c'est « Je te prie pour ceux qui croiront en ceux qui auront cru dans le témoignage de ceux que j'ai envoyés. » En fait, il prie pour nous ici, au point du jour. Puisque vous croyez parce que vous avez cru dans la parole de ceux qui ont cru, de ceux qui ont cru, de ceux qui ont cru, oui ou non? Et on remonte aux apôtres. Nous sommes là, la continuité du témoignage des premiers apôtres. Et d'autres vont croire en fonction de notre témoignage. Donc ça veut dire que s'il est hors du temps et qu'il remplit le temps, ça veut dire que cette prière résonne encore aujourd'hui. C'est-à-dire, elle est autant actuelle aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à cette notion d'éternité, nous pouvons dire que Jésus est en train de prier aujourd'hui pour vous au point du jour. Je te prie pour ces chrétiens, cette église du point du jour, parce qu'ils ont cru au témoignage de ceux qui ont cru, qu'ils ont cru. Enfin, j'espère que ça vous fait plaisir. En tous les cas, moi, ça me rassure quand je dis ça. Je dis, Seigneur, tu es encore en train, cette prière résonne encore, et ça nous amène dans une autre réflexion. C'est qu'il ne peut pas y avoir, la Bible nous dit qu'il n'y a pas ombre de changement en Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On ne peut pas lui ajouter quelque chose, on ne peut pas lui retrancher autre chose, et surtout on ne peut pas le prendre en défaut de ce qu'il est et de ce qu'il dit. C'est-à-dire que la parole que Dieu dit, cette parole-là, elle ne peut pas être prise en défaut. Elle ne peut pas être contraire à ce qu'il est. Il y a une entière, relation, sa parole. Il envoya sa parole pour le guérir. Le monde entier a été créé par sa parole. Il y a quelque temps de ça, à Lyon, j'ai gagné la confiance et je représente la Fédération protestante auprès des autorités, dans l'interreligieux, comme auprès de la mairie de Lyon. Et il y a quelque temps, avant le Covid, Barbarin, quand il était encore en bonne santé et qu'il était archevêque cardinal à Lyon, un homme qui a beaucoup souffert, on a beaucoup prié pour lui et avec lui, et il m'a invité, il y avait un colloque entre les autorités catholiques romaines et les autorités orthodoxes. Ils sont dans une phase d'unité, mais il y a un gros problème, c'est ce qu'on appelle le protos, c'est-à-dire quelle est l'Église mère. Alors évidemment, pour Rome, c'est Rome, pour les Romains, c'est Rome, et pour les orthodoxes, c'est Constantinople. Et alors, je les ai écoutés, il a parlé de ce différent. Et puis, Philippe Barbarin s'est tourné vers moi et il m'a mis dans l'embarras. Il m'a dit, pour vous et pour toi, Daniel, qu'est-ce que c'est que l'Église mère? Alors, j'ai tiré ma sonnette d'alarme et j'ai dit, Saint-Esprit, au secours. Parce que c'est pas des imbéciles, hein, c'est des érudits, ces gens-là. Et alors, voilà comment je m'en suis sorti. Je ne sais pas si on pourrait certainement faire mieux, mais je lui ai dit, écoutez, on aurait pu dire que l'église de Jérusalem, c'était l'église mère, mais trop légaliste pour moi, trop légaliste. Et Antioche, l'église missionnaire. Ah oui, mais attendez, mais il y a Éphèse. Et puis il y a Corinthe. Alors là, pour avoir un peu d'humour, comme je suis charismatique, je lui dis, Corinthe, tiens, trop pentecôtiste, trop de bazar. Non. Alors j'ai dit, écoutez, là où on est tous d'accord, on est tous des chrétiens trinitaires. Je m'en suis remis à ce Jean 17, j'ai dit, je crois que le modèle que Jésus nous a donné de la première communauté, c'est quand même la Trinité. C'est le modèle du travail en collaboration, ce modèle de l'unité. Il n'y a pas de compétition, il y a une adoration réciproque, il y a chacun se met au service de l'autre. Je m'en suis sorti comme ça. Hein. Je me suis dit, je crois que le seul modèle que le Seigneur nous a donné de communion, d'unité, de travail en commun, de travail d'équipe, c'est la Trinité. Alors je crois que je dois un peu boucher la parole, hein, parce que entre la Trinité et Rome et la Trinité et Constantinople, bon, il n'y a pas lieu de discuter la perfection. En tous les cas, le Seigneur met cette invitation quand il dit « Père, je veux qu'il soit un ». Alors avant d'aborder ce deuxième point, tu me dis quand je suis, il me reste 5 minutes, il n'y a pas de différence entre ce que Dieu dit et qui il est. On ne peut pas le prendre à défaut. C'est pour ça que plus on connaît le Seigneur, plus on a confiance en ce qu'il dit. Ce qu'il vous a dit il y a 10 ans est toujours vrai aujourd'hui. Il ne peut pas. La Bible nous dit qu'il ne revient pas sur ses dons ou son appel. C'est pas possible. Quand il dit quelque chose, c'est conforme à sa divinité, à son omniscience, son omniprésence. Je voudrais vous dire que vous pouvez permettre au Seigneur de réveiller ce qu'il vous a planté, ce qu'il vous a donné peut-être il y a 30 ans, 40 ans. Il y a un mot qui m'a toujours pendant longtemps étonné quand Paul écrit dans la deuxième Timothée chapitre 2. Paul est en prison. Timothée vit le contraire de ce qu'il vivait dans la première. Dans la première épître, c'est un pasteur avec une église qui grandit, avec tous les problèmes liés à la croissance, mais là, ils sont en pleine persécution. Les gens partent, les anciens disent « Bye bye pasteur, on reviendra quand ça ira mieux ». Il est découragé, on entend des bruits sur Paul, puisque sa réputation... vous savez ce que c'est que les rumeurs, non? Les rumeurs. Et le bruit courait que Paul avait perdu la tête, qu'il avait mis le feu à Rome. Et c'est pour ça que Paul lui dit « Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné ». C'est grave, hein? Il dit « Je comptais sur mon ami Alexandre, le forgeron ». Alors, ne pensez pas à un forgeron qui fait un outil. S'il était connu, c'est Monsieur Mittal aujourd'hui, c'est Arcelor. Il devait avoir les marchés des légions. Et quelque part, au lieu de témoigner pour Paul, il a préféré les commandes des armées pour les... Je ne sais pas si c'est pour équiper les chevaux ou les armes ou les armures. En tous les cas, il n'y avait pas photo, il a laissé tomber. Tout le monde le laissait tomber, même Timothée. Timothée qui était à deux doigts de tout lâcher, de dire peut-être que Paul, en ayant reçu tellement de cailloux, laissé lapider, blessé, il a peut-être perdu la tête. C'est pour ça que Paul lui dit « N'aie pas honte de moi ». Et puis il lui dit cette phrase « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Est-ce qu'on demande à un pasteur ou à un apôtre de se souvenir de Jésus-Christ? Il est payé pour. Non, je rigole. Hein. C'est son travail, c'est son quotidien. Et quand on regarde un peu ce mot, c'est vraiment le sens de l'anamnèse, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est un mot que moi je traduis comme « faites de l'archéologie, archéologie des bienfaits de Dieu ». Je pose toujours une question à des Parisiens, jusqu'à présent, j'ai aucun Parisien qui m'a donné la réponse. Je veux dire, à Paris. Ni les chauffeurs d'Uber. Alors, quel est le plus vieux monument de Paris? N'ayez pas peur. Pardon? Les arènes. Non. Pardon? Oh non, Notre-Dame, elle est toute jeune. Vous voyez? Pourtant, c'est un monument qui est en plein centre de Paris, dans une grande place. Tout le monde connaît l'obélisque. Eh oui, 2000 ans avant Jésus-Christ, je crois. Donc voilà. Encore une fois, j'ai la preuve que... Mais quand vous vous approchez de l'obélisque, c'est extraordinaire. Vous avez l'impression que ça a été taillé hier. Les archéologues, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils fouillent le sable, et quand ils enlèvent la poussière et le sable, ils ont découvert les inscriptions de cet obélisque. Je ne sais pas qu'on va le garder, hein, c'est Napoléon qui l'a pris en Égypte. Mais par les temps qui courent, hein, l'Égypte peut très bien nous la réclamer. Hein, bon, bref. Mais c'est ça ce mot. Dieu a gravé en nous, Dieu nous a donné des paroles. Il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans. Moi, j'ai reçu une parole de Dieu à Stockholm en 1968, pendant que mes copains faisaient des barricades. Moi, j'étais dans une tournée missionnaire avec mon père en Suède. Et je vis encore les résultats de cette prophétie. Vous savez, quand Dieu nous parle, il ne reviendra jamais sur ce qu'il vous a dit. Mais il y a eu de la poussière, il y a le temps qui a fait du sable. Et il suffit que nous puissions enlever, sortir cette poussière, ce sable, pour vous apercevoir que c'est toujours là. Vous avez des chrétiens qui attendent le réveil. Je crois qu'on oublie que Jésus a dit « Réveillez-vous, nous avons quelque chose à faire ». Donc ça fait 61 ans que je suis baptisé. Bon, ça ne me rajeunit pas du tout. Hein. Mais j'entends depuis 60 ans les gens qui rêvent après comme un fantôme le réveil. Non, Jésus a dit « Réveille-toi ». Ça veut dire quoi, « Souviens-toi de Jésus-Christ » C'est-à-dire « Écoute ». Et ça, c'était le secret de Paul, de continuer à avoir la même flamme, le même feu, le même zèle. C'est laisse le Saint-Esprit souffler sur la poussière du temps, sur le sable, sur tout ce qui est venu couvrir les épreuves, les difficultés qui sont venues et on a mis en oubli ce que Dieu nous a dit. Et quand tu fais ce travail, vous savez ce vieux cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Lorsqu'on laisse le Saint-Esprit agir en nous et enlever cette poussière, on dit Saint-Esprit, souffle, souffle, nous retrouvons et nous pouvons trouver à tout moment la même joie du salut quand on a été né de nouveau, la même flamme du baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? C'est là, c'est pas parti. Simplement, il faut enlever la poussière. Donc, il n'y a pas de différence entre ce que Dieu dit et ce qu'il est. Et quand on comprend cette dimension de l'éternité, qui ne change pas, qui remplit le temps tout en étant hors du temps, le temps est entre ses mains, c'est une créature, alors nous pouvons augmenter notre confiance dans ce qu'il a dit. Amen. Qu'est-ce que c'est que l'unité? Quand Jésus prie, là aussi, si vous étudiez bien, il parle du triomphe de l'Église. Jésus, comme il remplit le futur comme il a rempli le passé, il sait que le gnosticisme va venir attaquer l'Église. Il sait que les persécutions vont venir. Il sait que le premier péché de l'Église, qui est le paraître, et qui constituera la division. Il connaît tout ça. Il sait tous les drames qui ont jalonné l'Église depuis 2000 ans. Il le sait. Il le sait. Et c'est pour ça qu'il dit, Père, je veux qu'il soit un. Un par rapport à nous-mêmes, guéri. On dit aujourd'hui aligné. La neuroscience parle beaucoup de ça. Il a découvert, ils font des découvertes extraordinaires dont la Bible parle. Et puis, un avec lui. Et c'est de cette unité dont l'Église a besoin pour qu'elle soit une. Pour que nous vivions l'unité aussi dans l'Église locale. C'est la passion de Jésus pour l'unité. Et cette unité, il nous la propose. Et je veux que vous viviez ce que je vis. La même qualité de relation, la même qualité de l'amour, la même intensité. Nous resterons des créatures, mais il nous invite à vivre le climat, l'atmosphère de la Trinité. Et c'est ce qui nous fait goûter un petit peu quand le Saint-Esprit agit dans l'adoration, dans la louange. Et je voudrais vous inviter à de plus en plus nous nourrir de cette intimité avec le Saint-Esprit. Alors c'est là qu'il y a un piège, le piège de l'esprit religieux, le piège du légalisme. Je ne sais pas comment vous avez compris ou entendu. Beaucoup de gens m'ont dit, quand j'étais jeune et je ne comprenais pas ça, que plus je vais lire la Bible, plus je vais prier, plus je vais jeûner, plus je suis fidèle, plus je serai... Je grandirai dans l'intimité du Seigneur. Et moi, je dis aux chrétiens, ce n'est pas parce que vous allez prier plus, ce n'est pas parce que vous allez lire plus la Bible, ce n'est pas parce que vous allez donner 20% au lieu de 10%, ce n'est pas parce que... Non, parce que là, on a mis la charrue avant les bœufs. Je parlais avec un jeune pasteur, un jeune étudiant, qui me dit, ouais, tu parles beaucoup de la grâce, mais tu ne parles pas beaucoup de ce qu'on doit faire, de notre... Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y a une déformation. Je crois que le diable a l'art de nous égarer encore. C'est parce qu'il y a la grâce qu'on peut être discipliné. Il faut que notre discipline soit le fruit de la grâce et pas l'inverse. On n'a pas à gagner l'intimité avec Dieu. L'intimité avec le Seigneur, elle est gratuite, elle est totale, elle est due entièrement à l'œuvre de Jésus. Le fils prodigue, quand le Père lui ouvre les bras, est-ce qu'il sentait le dernier parfum de chez Hermès ou... Il sentait quoi? Il sentait quoi? Le cochon, hein? Vous avez déjà été dans une porcherie? Dans le village de mon père, en Haute-Savoie, il faisait le meilleur beurre du monde, tant pis pour les Normands. Faisait le meilleur fromage du monde, c'était dans la fruitière. La fruitière. Et la fruitière, c'est là où on venait apporter le lait. Et évidemment, il y avait toujours une porcherie à côté parce qu'on nourrit les cochons avec le petit lait. Et il suffit d'entrer dans la porcherie, ressortir, L'odeur, elle va vous rester pendant plusieurs jours si vous ne lavez pas vos vêtements. Imaginez à quelqu'un qui travaillait et qui mangeait avec des cochons. Bien, le Père l'embrasse. Quelle plus grande image de l'intimité. L'intimité, c'est l'intimité avec Dieu qui rend possible le cheminement avec lui. Ce n'est pas le cheminement qui nous amène à l'intimité. Nous devons vivre de cette intimité que Dieu nous donne par la réconciliation. Eh oui. Donc si je prie davantage, si je jeûne, si je donne ma dîme, si je témoigne, c'est parce que ça part de ma relation, de ma réconciliation et de mon intimité avec Dieu. Et je vais cultiver là, je vais développer là une plus grande relation. Et si on comprend ça, ça va nous éviter beaucoup de tracas. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que je mérite? Tu ne mériteras jamais rien du tout. C'est la grâce. Et c'est pour ça que la grâce va plus loin. La grâce, c'est le moteur, c'est pas l'aboutissement. C'est pour ça que Jésus parle, et moi, il y a un verset qu'on n'a pas pu lire, mais dans Jean 17, attendez, mettez-vous à la place de Jésus avec ses douze. Il y en a un qui l'a trahi, qui va le trahir, là. Il y en a un qui le renie. Ils vont tous dormir. Et pourtant, il y a ce verset qui est pour moi incroyable. Au verset 11 du chapitre 17, il dit: attendez. Il dit: ma gloire rayonne en eux. Attendez, quand vous regardez un peu le constat qui nous est fait de ses disciples, ils n'ont rien compris à ce que Jésus leur expliquait. Ils fuient, ils dorment au lieu de l'aider. Il y en a un qui le trahit. Il y en a un autre qui n'est même pas capable de dire: je le connais. Et Jésus dit: je vois ma gloire. Il y a quand même un petit problème. Vous ne trouvez pas? J'ai encore 5 minutes ou pas? Ça va? Quel est le problème? Je vais dire, la solution, elle est simple. C'est qu'à partir du moment où nous croyons en lui, et nous croyons que c'est Dieu qui l'a envoyé, ce qui revient, eh bien, le Seigneur, il voit en nous le produit fini. Il ne s'arrête pas au produit d'aujourd'hui. Et c'est ça, la grâce. Il n'est pas limité dans son action en fonction de ce que nous sommes aujourd'hui. Et devant ses poltrons, devant ses disciples, Jésus dit: je vois ma gloire, la gloire en eux. Frères et sœurs, Dieu voit la gloire de Dieu en vous. On n'est pas encore, on est en chemin. Mais voilà ce Dieu-là qui est capable de voir le meilleur en nous. Il nous voit déjà parfait, il nous voit déjà. C'est comme ça qu'il regarde l'Église. Et trop souvent, nous, on a un regard très, très horizontal. Et oui, tu pourrais te tourner vers ton voisin en disant: tu es parfait, tu es saint. Eh oui, même si surtout c'est votre conjoint. Hein. Et le dernier mot, et je termine, c'est le mot gloire. Alors, pour faire vite, aujourd'hui, c'est un mot qui est employé à tort et à travers. C'est vrai que la gloire de Dieu, c'est simplement qui il est et son rayonnement en fonction de qui il est. Mais en hébreu, le mot, c'est kabod, kabod. Kabod, ça m'a fait penser, alors je ne sais plus du tout ce que les enfants étudient à l'école, vraiment. Moi, je me souviens qu'un des professeurs avait voulu expliquer au niveau de la Terre et de sa masse. Donc, s'il y a des prophéties, ben, j'espère que j'ai bien écouté. Mais ça m'avait frappé. Le prof disait que si on enlevait tout le vide du globe terrestre, d'accord, tout le vide, la masse de la Terre ne serait pas plus grosse qu'un dé à coudre. Alors déjà aujourd'hui, les nouvelles générations ne savent pas ce que c'est qu'un dé à coudre. Mais vous voyez ce que c'est qu'un dé à coudre? Hein, c'est... Voilà. Voilà, c'est ça. Mais la terre pèserait autant qu'aujourd'hui. Le mot qui désigne le plus la gloire, c'est qu'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de creux. En Dieu, il n'y a pas de vide, il n'y a pas... C'est lourd, c'est dense. Et c'est pour ça que la gloire de Dieu va avec sa réputation. Ce qu'il est, c'est pas léger. Ce qu'il dit, c'est pas léger. Et Jésus dit bien, je leur ai donné cette gloire. Et cette gloire a commencé à travailler en nous. Parce que le but de Jésus, dans Jean 17, il dit, je veux que leur témoignage soit crédible, pour que les gens croient. Pour que lorsque nous parlons de Jésus, ils croient. Ils aient une révélation que c'est toi qui m'as envoyé, que je suis vraiment le Sauveur. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de creux, il n'y a pas de vide entre ce que nous sommes et ce que nous disons. Dieu nous a donné en nous le Saint-Esprit qui veut nous glorifier, nous transformer de gloire en gloire. C'est-à-dire que de plus en plus, ce que nous vivons et ce que nous disons soit en relation de plus en plus vrai. Qu'il n'y ait pas de parole en l'air, qu'il n'y ait pas de vide ou de creux et de différence entre ce que nous disons et ce que nous vivons. Pour beaucoup de gens, nous sommes le seul évangile qu'ils pourront lire. C'est Paul qui le dit. Que le Seigneur nous aide par son esprit et par sa parole à grandir dans cette confiance dans un Dieu qui est éternel et qui nous fait goûter un peu cette dimension d'éternité d'un Jésus qui prie pour vous aujourd'hui, qui prie pour moi, dans cette dimension incroyable de l'amour et de l'unité et de la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je veux m'agenouiller devant toi. Je veux m'incliner aussi sur la grandeur et la beauté de ta parole. Je te remercie pour cette Église. Je te demande de bénir le groupe pastoral, les anciens et l'ensemble de cette Église. Au nom de Jésus. Amen.